La crise de surproduction. La lutte du capital contre le capital, du travail contre le travail, du sol contre le sol, rend la production fiévreuse. Tous les rapports de la nature et de la raison s'en trouvent inversés. Aucun capital ne peut soutenir la concurrence d'un autre si son activité n'est pas portée au plus haut point. Aucun bien foncier ne peut être cultivé avec profit si sa productivité ne s'accroît pas constamment. Aucun travailleur ne peut l'emporter sur ses concurrents s'il ne consacre pas toutes ses forces au travail. En général, on ne peut se maintenir dans la lutte de la concurrence qu'au prix du maximum de l'effort, par le sacrifice de tous les buts vraiment humains. Cette tension excessive va nécessairement de pair avec l'atrophie des autres facultés. Quand les oscillations de la concurrence sont faibles, quand l'offre et la demande, la production et la consommation se balancent, ou presque, l'évolution de la production traverse nécessairement un stade particulier. La surabondance des forces productives est si grande que la majorité de la nation ne peut vivre. Le superflu fait mourir de faim le peuple. Depuis longtemps déjà, l'Angleterre se trouve dans cette situation insensée, absurde. Mais la conséquence fatale d'une telle situation est une oscillation plus forte de la production. Alors nous voyons se succéder prospérité et crise, surproduction et marasme. Jamais l'économiste n'a pu s'expliquer cette situation absurde. Il a inventé, il est vrai, la théorie de la population. Elle est tout aussi folle, davantage même, que cette contradiction de la richesse et de la pauvreté. L'économiste n'avait pas le droit de voir la vérité. Il n'avait pas le droit de voir que cette contradiction est une simple conséquence de la concurrence. Car s'il la voyait, tout son système tomberait en ruine. Pour nous, l'explication est facile. La force de production dont dispose l'humanité est immense. On peut pousser à l'infini la capacité de rendement du sol en y appliquant le capital, le travail et la science. D'après le calcul des économistes, la Grande-Bretagne surpeuplée peut, en 10 ans, être mise en état de produire suffisamment de blé pour le sextuple de sa population actuelle. Le capital s'accroît journellement. La force de travail augmente avec la population et la science met chaque jour davantage les forces de la nature au service de l'homme. Utilisée rationnellement et au profit de tous, cette incommensurable capacité de production ne tarderait pas à réduire à un minimum le travail imparti à l'humanité. Livrée à la concurrence, elle aboutit au même résultat, mais d'une façon contradictoire. Une partie du sol est cultivée le mieux du monde. Une autre, 30 millions d'acres de bonnes terres en Irlande et en Grande-Bretagne, reste en friche. Une partie du capital circule avec une extraordinaire rapidité, l'autre dort dans les caisses. Une partie des ouvriers travaille 14 ou 16 heures par jour, l'autre reste oisive, inactive et meurt de faim. Ou bien encore, il n'y a plus simultanéité. Aujourd'hui, le commerce est prospère, la demande est très importante, tout est en activité, le capital circule avec une rapidité merveilleuse, l'agriculture est florissante, l'ouvrier travaille à en tomber malade, demain, c'est le marasme, l'agriculture ne vous paie pas de vos peines, des espaces entiers restent en friche, le capital s'immobilise, les ouvriers n'ont pas d'emploi et tout le pays souffre de sa richesse excessive et de sa population surabondante. L'économiste s'interdit de reconnaître l'exactitude de cette exposition. S'il le faisait, il lui faudrait, comme nous l'avons dit, abandonner tout son système fondé sur la concurrence. Il lui faudrait admettre la nullité de ses oppositions, production et consommation, population surabondante et richesse excessive. Comme ces faits ne sont pas niables, on inventa la théorie de la population pour les mettre d'accord avec la doctrine.